Bonjour, depuis quelque temps, vous avez remarqué certainement que je vous parle beaucoup de guerre, de combat, d'épée, de lutte. Et on va encore continuer. Je voudrais que nous fassions une lecture dans Jean chapitre 8, verset 32, où Jésus parle et dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Amen. Quand Jésus dit « Vous serez libre », ça ne signifie pas ce que beaucoup de gens pensent. Combien de fois est-ce qu'on a entendu des gens dire « Ah, quand je serai à la retraite, j'aurai du temps libre, je serai libre. » Et peu de temps après leur retraite, eh ben, ils se plaignent « La vie est d'un ennui mortel, c'est la routine, je m'ennuie. » Parce que dans ce cas, la liberté signifie « absence de sens ». La liberté, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. La liberté avec Jésus, je dis bien. Quand Jésus nous dit que la vérité nous rendra libres, c'est tout à fait autre chose que ce que le monde pense. Parce qu'autant il nous donne la paix d'une façon différente que le monde donne, autant il nous donne la liberté d'une façon différente. Parce qu'une personne qui s'est engagée à suivre Jésus, à suivre la vérité qui rend libre, eh bien, c'est une personne qui est engagée. Le terme, c'est esclave. Il est juste libre de ses pas. Je veux dire, ça va peut-être vous paraître bizarre parce que vous allez dire, ah tiens, mais alors c'est contre le message de la prédestination si nous commençons à être libres de nos pas. Non, non, non. Je dis juste qu'un soldat du roi des rois ne répète pas à l'infini les mêmes luttes, les mêmes combats, il fait pas les mêmes erreurs tout le temps. Quand il voit qu'il n'avance pas, quand il voit qu'il ne recule pas non plus, quand il voit que son combat ne fait rien progresser, il comprend alors qu'il vaut mieux s'asseoir avec l'ennemi et discuter d'une trêve. Le guerrier du roi des rois, il s'assied avec son adversaire, ils savent tous les deux ce que c'est que le combat. Ils savent tous les deux manier l'épée. Ils sont donc tous les deux conscients qu'ils doivent maintenant trouver un terrain d'entente parce que ça mène nulle part. Et ça, c'est pas de la lâcheté, ça c'est un geste de dignité. C'est un acte de dignité qui rééquilibre les forces. Maintenant, si l'adversaire ne veut pas venir s'asseoir, ça c'est une autre affaire. En tout cas, celui qui aura proposé, asseyons-nous, parlons, celui-là aura fait preuve de dignité. Il veut un revirement de stratégie. Et je pense que si les deux se rendent compte qu'ils n'avancent pas, ils ne reculent pas, il vaut mieux, n'est-ce pas, s'asseoir. En fait, c'est comme ça que ça se termine les guerres. En général, par un traité de paix. Plus personne a rien à prouver à personne, et ils ont chacun combattu le mieux qu'il pouvait, puis chacun a cédé un peu, apprenant ainsi l'art de la négociation. Vous savez, nous avons tous ce que j'appelle des ennemis cachés. Moi, ce sont mes ennemis cachés qui me donnent mon énergie. Vous voulez savoir qui sont mes ennemis cachés? Ce sont tous ces gens que j'ai pas pu punir. C'est ce sale gamin, il est mort maintenant. C'était le gros de la classe. Et il voulait que je lèche ses godasses à la récréation un jour. J'ai jamais pu le punir, il était tellement plus gros que moi, il avait 3 ans de plus que moi en plus, j'ai jamais pu le punir. Qu'est-ce que j'aurais voulu lui foutre une raclée? Je pouvais pas. Et puis ce prof qui s'amusait à m'humilier devant la classe, je vois toujours sa tête. J'ai jamais pu le punir. Même un jour, je l'ai rencontré dans une église évangélique, il était en train de louer Dieu. Je savais pas qu'il était chrétien. En tout cas, à l'école, qu'est-ce qu'il pouvait m'humilier? Et puis, tiens, ce pasteur, ce pasteur dont je ne donnerai pas le nom, mais c'est, il était à Cuilly. C'est là que j'ai fait mon catéchisme à l'église protestante. Et qui, un soir de Noël, alors que tout le village était réuni autour du sapin, a raconté une histoire et puis il m'a traité devant tout le monde d'efféminé. J'étais un petit garçon de 9 ans, 9, 10 ans. J'ai jamais pu le punir, ce cochon-là. Mon père est allé l'engueuler, lui disant « Alors quoi, vous lui faites la publicité pour tous les pédophiles du coin ?» Je n'ai jamais pu les punir, ces gens-là. C'est mes ennemis cachés. Mais ils m'ont appris une chose très importante. Grâce à Dieu, grâce à eux et à Dieu, je ne pense pas à me venger. Et vous savez pourquoi? Tout simplement parce que ils ne font plus partie de mon histoire. Ils n'en font plus partie. Je peux en parler. Ça me fait rire. Je peux en parler. Je m'en fiche. Maintenant, je ne pense plus qu'à une chose. Accroître mon habileté au combat contre les mauvais esprits qui agissent au travers de ces personnes-là. Et de faire la preuve que je sais prouver mon courage. Et que je peux réjouir le cœur de Dieu en montrant mon courage. Ces humiliations et ces douleurs d'hier, elles se sont transformées en force. En ce moment, je suis en train de lire un livre. C'est une nouvelle biographie sur la vie de James Dean. Ça vient de sortir. C'était un drôle de petit gars. Il était petit. Il se tenait un peu voûté. Il était myope comme une taupe, alors il n'a pas pu faire beaucoup de sport, il en a fait un peu, mais c'était pas son truc, parce qu'il cassait ses lunettes sans arrêt, enfin c'était... Il avait une éducation de campagnard, n'était jamais sorti de sa campagne, et puis il est allé faire des cours chez Kazan. Et c'est devenu quelqu'un d'important, Kazan, hein, dans le cinéma du monde. Et la première fois que Kazan lui a donné la possibilité de s'exprimer sur une scène, il n'a pas compris ce que Dean voulait représenter. James Dean s'est vexé, il a dit « Plus jamais je monterai sur une scène. » Et 60 ans après sa mort, on parle toujours de lui alors qu'il n'a fait que 3 films. Pourquoi ? Parce qu'il savait mieux que Kazan. Parce qu'il avait un talent en lui, et il le savait. C'était un homme rude. C'était un chrétien équilibré, c'était un Quaker. Les Quakers sont des chrétiens, c'est une religion qui a beaucoup de succès dans la campagne, auprès des gens humbles. Les Quakers sont les gens les plus humbles que vous pouvez croiser. J'ai eu l'occasion d'aller sur la tombe de James Dean, et j'ai demandé à un pasteur qui était là, « Mais comment ça se fait que cette tombe est si simple ?» Il m'a dit « Parce que nous, les Quakers, on est humbles. Ça a beau être une célébrité mondiale, il est comme tout le monde. Il n'aurait pas aimé avoir une statue, un machin. Ils ont une foi tenace. Vous savez, comme les gens de la terre. Et les Quakers, c'est des gens qui ont une religion pour paysans, pour des gens de la nature, pour des gens de la terre, des gens qui savent ce que c'est que la rigueur. » Je connais personnellement le cousin de James Dean, Marcus Winslow. J'ai eu l'occasion de parler avec lui. J'étais avec Dominique Boisset, mon frère de la communauté. Ben cet homme, il ressemble, même physiquement, il ressemble à mon beau-père, Guy Chaffray, un Auvergnat, de la terre, bien solide. Vous savez, cette sorte de personnes qui sont dures, mais avec un cœur tendre. Cette sorte de personnes qui savent ce qu'ils veulent et qui ne se laissent pas marcher sur les pieds facilement. James Dean savait qu'il avait du talent et il l'a fait valoir, même en résistant à Kazan, le grand Kazan, qui finalement lui a fait tourner son premier grand film, À l'Est d'Eden. Est-ce que vous faites valoir votre talent? Ou est-ce que vous êtes toujours en train de demander à Dieu de faire ce que lui vous a demandé de faire? Jimmy, il n'est pas né en sachant manier son talent, en sachant manier son épée, pas plus que vous, pas plus que moi, mais il avait une épée et il s'en est servi. Est-ce que vous vous servez de votre épée? Est-ce que vous vous servez de votre talent? Ou peut-être vous n'avez pas de talent? Non, vous avez tous un talent. Mais est-ce que vous vous en servez? Lui, il a commencé en déclamant des textes bibliques à l'église, chez les Quakers. Et c'est dans son église de Quakers qu'ils se sont rendus compte qu'il avait un talent. Et alors, il y avait l'institutrice qui était là et qui a commencé à lui donner des cours de théâtre. Et c'est comme ça que ça a commencé. Je ne vais pas vous raconter l'histoire de James Dean. Mais bon, c'est très intéressant de lire l'histoire des gens qui réussissent. Parce que s'entourer qu'avec des gens qui ratent tout, c'est pas très inspirant. Je préfère m'entourer de gens qui réussissent, qui gagnent, qui se donnent de la peine, qui font valoir leur talent, qui écoutent les conseils et qui les suivent et qui réussissent. Si vous avez reçu quelque chose de Dieu, l'Église va s'en rendre compte. Et vous ferez comme tous ceux qui vous ont précédé, vous commencerez par vous tromper. Vous ferez des erreurs. C'est normal. Vous savez, aucun guerrier de la foi ne peut s'asseoir au coin du feu avec un autre guerrier de la foi et dire « Moi, j'ai toujours agi correctement. » Aucun, personne. Si quelqu'un dit ça, il ment. Il ment. Il a pas compris, il a pas encore appris à se connaître lui-même. C'est un bleu, il ment, il est bête, il a pas compris qu'est-ce que c'est son talent, ni l'épée qu'il a en sa possession. Il ment. Le guerrier de la foi, il sait que pour répandre le mal, les ténèbres tissent toujours un filet invisible où viennent se prendre toutes les informations qui passent. Il y a toujours, vous savez, les oreilles partout, n'est-ce pas? Hein? Oh, voilà, et puis alors, les ténèbres transforment ces informations toujours en intrigue, en jalousie, ça parasite les âmes. Hein? Vous ne connaissez pas ça? Oui, moi je connais très bien. C'est ainsi que tout ce qui est dit d'une personne, ça finit par arriver aux oreilles de ses ennemis, augmenté d'une charge obscure, de poison, de méchanceté. Je reviens à James Dean. James Dean était un Quaker, donc il allait à l'église des Quakers, j'y suis allé moi-même, et quand il était ado, un jour, il a rencontré un autre pasteur, un pasteur baptiste, qui était beaucoup plus rigolo que son pasteur Quakers. Lui, il faisait de l'automobile, n'est-ce pas? À l'époque, c'était formidable à la campagne. Hein, c'était la campagne où il était fervent, c'est la campagne, la plus campagne des campagnes. Et puis, il aimait les corridas, ce pasteur. Donc, il a emmené une bande de garçons faire voir une corrida. Alors, c'était extraordinaire. Et puis ensuite, il a emmené d'autres, Jefferson et d'autres garçons voir des courses d'auto. Et puis il a fini par le violer, ce vieux cochon de pasteur. Ce jeune gamin violé par, excusez-moi, une saloperie de pédophile. Et plus tard, Jefferson était choqué. Ça choque un enfant, c'est terrible pour un enfant de vivre une chose comme ça. Et il en a parlé à quelqu'un qui croyait être son ami vraiment. Il était blessé, il était honteux. Il en a parlé aussi à Elizabeth Taylor. Il en a parlé à quelques-uns. Mais cet ami, après la mort de James Dean, il a écrit un livre où il raconte l'homosexualité de James Dean. Et voilà comment on salit un jeune chrétien talentueux. Et maintenant, quand on dit James Dean, ah oui, le petit PD. Le guerrier de la foi connaît les ruses du diable. Alors il sait qu'il doit rester pur comme une colombe, mais qu'il doit rester, il doit garder quelque chose du serpent en lui, la prudence, la ruse, faire attention. Attention. Alors le guerrier de la foi, il est humble et il se confie en Dieu parce que ça fout les jetons, cette méchanceté diabolique. J'ai eu l'occasion, il y a quelques mois, de d'avoir sous les yeux un écrit ancien, c'était qui s'appelle le bréviaire de la chevalerie médiévale. Si vous voulez, vous pouvez aller, je pense que vous l'êtes aussi sur Internet, je peux y voir. Et j'ai noté quelques phrases parmi d'autres, là, dans ce traité, ce bréviaire de la chevalerie médiévale, où il était dit, par exemple, que le nouveau chevalier sait que son chemin sera facile et difficile à la fois. Difficile parce qu'il implique de renoncer aux choses inutiles et aux amitiés marginales. Vous savez, ces personnes qui aiment tout le monde. Quand on aime tout le monde, on n'aime personne. Bien sûr qu'on doit aimer tout le monde, mais quand on aime, on donne notre vie. On n'est pas superficiel et léger, et on ne peut pas donner notre vie à tout le monde. Hein? Vous voulez donner, comment vous voulez donner votre vie à tout le monde, vous? Et puis le texte dit ensuite, tu effaceras ce que tu as écrit jusqu'à présent sur le cahier de ta vie. Inquiétude, manque d'assurance, lâcheté. Et tu écriras à la place, courage. Alors, en commençant ton voyage avec ce mot, courage, et en poursuivant ton voyage avec la foi en Dieu, tu arriveras là où tu dois arriver. Mon frère, ma sœur, ma prière, c'est que chacun de vous ayez l'humilité de reconnaître vos erreurs. Vous êtes des guerriers, du soldat, du roi des rois, sinon vous ne seriez pas en train d'écouter ça, vous seriez, je ne sais pas où, vous ne seriez pas en train d'écouter un prédicateur. Vous aimez la parole de Dieu, vous aimez Jésus, mais je prie pour que vous ayez l'humilité de reconnaître vos erreurs et que vous ayez le courage de vous humilier. Sans quoi vous ne serez jamais véritablement un chevalier, un noble chevalier. Vous savez, le chevalier n'est pas noble parce qu'il n'a jamais fait d'erreur. Il est noble parce qu'il a le courage de s'humilier et de reconnaître qu'il n'a pas été à la hauteur, qu'il aurait dû écouter les anciens. Ma prière est que dans 60 ans, on parle encore de vous. Que les enfants de vos enfants soient fiers de ce que vous aurez fait et qu'ils en parlent à leurs enfants et qu'ils disent « Il était libre, il connaissait la vérité, il était libre, il a fait ce qu'il a voulu, il a eu ce courage-là et Dieu l'a béni. » Voilà ce que je désire pour vous. Alors, bon, j'ai pas pris Abraham. J'ai pas pris Isaac, j'ai pas pris Jacob, j'ai pas pris Moïse, j'ai pas pris l'apôtre Paul, ni Jacques, ni Pierre, ni Jude. J'ai pas pris des personnages de la Bible, j'ai pris un de nos frères chrétiens, James Dean, comme exemple, pour vous dire, mes frères et sœurs, nous sommes environnés d'une nuée de saints. Regardons ceux qui ont mené le bon combat de la foi et qui ont réussi. Que Dieu vous bénisse. Soyez leurs imitateurs. Amen. Amen.